France Inter.
L'heure de votre journal, Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour à tous. Un marathon en montagne, c'est ce que promet la 14e étape du Tour de France, la dernière dans les Pyrénées. Les coureurs sont partis de Pau il y a une heure, direction Superbagnères. 36 ans que la grande boucle n'y était pas passée. Nous serons en direct de la route du Tour dans un instant. Dans l'actualité aussi, un cessez-le-feu annoncé dans le sud de la Syrie, en proie à des violents affrontements entre sunnites et druzes qui menacent l'unité du pays. Plus de 420 000 signatures pour la pétition contre la loi du plomb pour l'association Génération Future. C'est la traduction d'une colère qui monte. On parlera de chirurgie et de robotique. Congrès mondial ce week-end à Strasbourg avec notre invité, le professeur Jacques Maresco, le premier à avoir opéré en téléchirurgie. La météo, encore des orages dans l'est du pays, Magali Rochereau.
Oui Corinne, et un ciel changeant dans la partie ouest et partout des températures en baisse.
Vos prévisions complètes à la fin de ce journal. Et puis de la musique électro au milieu des cendres, deux jours après l'incendie qui a détruit sa scène principale, le festival Tomorrowland en Belgique a accueilli hier soir ses premiers spectateurs.
Inter.
Allez, c'est la dernière dans les Pyrénées. Les coureurs du Tour de France sont partis il y a à peu près une heure de Pau pour une étape de 182 km jusqu'à Superbagnères. Trois cols au programme, le Tourmalet, Aspin et Persourde. On rejoint Nicolas Perronnet sur la moto Radio France. Alors ce n'est pas une étape comme une autre, Nicolas. Ça fait 36 ans, je le disais, que la Grande Boucle n'était pas arrivée à Superbagnères.
Oui, c'est un retour dans l'histoire, c'est vrai, c'est aussi l'étape reine de ce triptyque pyrénéen, ces trois jours dans les Pyrénées, l'étape clairement en tout cas la plus dure depuis le début du tour, avec un enchaînement de cols aussi exigeant que mythique, vous l'avez dit, Tourmalet, Aspin, Peyressourde, sans oublier évidemment la montée finale vers Superbagnères. C'est également exactement le même parcours qu'une étape de légende du tour 1986, étape remportée par Greg LeMond après une explication avec un certain Bernard Hinault pour son dernier tour. Bref, on est dans le mythe aujourd'hui, on est dans le costaud. Premier passage à plus de 2000 mètres d'altitude, quasiment 5000 mètres de dénivelé positif cumulé. Et une grande question, évidemment, Tadej Pogacar peut-il et veut-il surtout réaliser la passe de 3 dans les Pyrénées, lui qui a déjà gagné hier, qui a gagné également avant-hier. Le maillot jaune est désormais à l'abri, hein, plus de 4 minutes d'avance au général sur Vingegaard. Pogacar qui a inauguré juste avant le départ sa stèle au totem des géants à Pau en compagnie d'une figure incontournable de la ville, le Premier ministre François Bayrou. Pour l'instant, peloton groupé qui traverse la ville de Lourdes après une quarantaine de kilomètres de course sous un ciel chargé et menaçant dans les Pyrénées.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet en direct du Tour avec Selim Guerribi. Autre grand titre aujourd'hui en Syrie, la situation dans le sud du pays est toujours confuse. Après plusieurs jours d'affrontements meurtriers entre la communauté bédouine, proche du pouvoir, et les druzes, affrontements qui ont fait 940 morts d'après un dernier bilan, deux cessez-le-feu sont annoncés ce matin entre la Syrie et Israël. Israël allié des druzes qui avaient frappé Damas, et l'autre dans la région de Soueïda, cessez-le-feu annoncé par le président syrien Ahmed al-Shara. Bonjour Anne Andlauer.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans la région, alors c'est difficile de savoir, Anne, si ce cessez-le-feu sera respecté.
Oui, la présidence syrienne a appelé toutes les parties à respecter un cessez-le-feu immédiat et annoncé que ses forces avaient commencé à se déployer à Soueïda dans le but, je cite, de protéger les civils et de mettre un terme au chaos. Pourtant, des affrontements sporadiques ont encore été signalés ce matin dans la ville. Alors, en annonçant un cessez-le-feu avec Israël, l'émissaire américain pour la Syrie, Tom Barak, a appelé les druzes, les bédouins, les sunnites à déposer les armes et à construire, je le cite, une identité syrienne nouvelle et unie. Or, c'est précisément ce qui est mis en question, la capacité des autorités syriennes à contrôler les différentes factions armées et à éviter l'implosion le long des fractures communautaires. La question s'était déjà posée en mars, quand 1700 personnes, en grande partie de la communauté alaouite, avaient été tuées. Or aujourd'hui, 7 mois après l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara, ce sont les mêmes déchaînements de violence qui ne font qu'alimenter des rancœurs de part et d'autre. Situation d'autant plus incertaine, en effet, que cette fois, le voisin israélien s'est impliqué directement en se posant en défenseur des druzes et en intervenant militairement cette semaine, notamment en frappant Damas, la capitale.
Merci Anne Andlauer. Autre cessez-le-feu scellé ce matin entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, accord signé au Qatar après 3 mois de discussion. À Los Angeles, une voiture a foncé dans la foule dans le quartier d'East Hollywood. Il y a 20 blessés, dont 4 au moins dans un état critique, indiquent les pompiers de la ville. On y revient bien sûr dans nos prochaines éditions. Il était détenu au Venezuela depuis le mois de janvier. Le franco-américain Lucas Hunter a été libéré ce matin avec 9 autres Américains après un accord avec les États-Unis. À 37 ans, il avait été arrêté à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Retour en France après une nuit émaillée de violence à Limoges. 10 policiers ont été blessés dans le quartier du Val de Laurence. Le maire évoque une situation de guérilla urbaine. Le récit d'Estelle Romer d'ici Limousin.
Tout commence vers 1h du matin. Les policiers reçoivent des appels de personnes agressées en voiture le long de la Nationale 141 pour rentrer sur Limoges. Une dizaine d'habitants, des familles attaquées avec des barres de fer par un groupe d'individus cagoulés. Jusqu'au moment où un conducteur sort de sa voiture qui est volée puis incendiée, c'est là que la police arrive sur place. Elle est immédiatement prise à partie à son tour. Entre 70 et 100 personnes, très jeunes selon les forces de l'ordre, les attendaient. Lourdement armées, pierres, mortiers, cocktails Molotov. S'ensuit 3 heures d'affrontements intenses le long de la Nationale qui se sont terminées à 4h du matin. Une dizaine de policiers ont été légèrement blessés. Ils souffrent d'acouphènes à cause des tirs de mortier dans les casques. Une enquête est en cours. Pas d'interpellation pour le moment.
Cette fois, le feu de Martigues est fixé. Il a détruit 250 hectares de pinèdes au nord-ouest de Marseille. 300 pompiers sont toujours sur place pour éteindre complètement les braises. Hormis 3 pompiers légèrement blessés, il n'y a pas de victimes et les dégâts matériels sont limités. Aucune maison n'est partie en fumée. 931 km de bouchons à la mi-journée sur les routes de France. Ce samedi est classé rouge dans le sens des départs par bison futé. Circulation particulièrement dense sur l'A7 entre Lyon et Marseille. Alors c'est le moment de faire attention aux agents d'autoroute, ceux qui arrivent en fourgon jaune en cas d'accident ou de panne. Sur le réseau Vinci Autoroute, un fourgon est percuté chaque semaine, des accidents parfois mortels. Alors sur l'autoroute A10, Jade Pécheras a suivi les patrouilleurs pour Ici Gironde.
Jour de grand départ sur l'A10, les interventions s'enchaînent. Mathis grimpe dans son fourgon jaune.
J'ai un véhicule en warning qui est arrêté là, je vais prendre contact avec le client. Les personnes ont besoin d'une protection, le dépanneur va arriver. Le but c'est de mettre en sécurité le dépanneur pour qu'il puisse charger le véhicule en sécurité lui aussi.
Et pour ça il faut respecter un protocole de sécurité.
J'ai déjà les gyros, la flèche qui m'indique aux personnes de s'écarter.
Le but c'est que les gens s'écartent au maximum de notre position.
Mais force est de constater que ça n'est pas le cas, les véhicules frôlent la voiture en panne.
Je vous invite à sortir par ici et à vous mettre en sécurité derrière les glissières, d'accord, d'accord.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un ralentissement et je ne l'ai pas vu et voilà.
Et ça finit parfois en drame. Pour sensibiliser les conducteurs, Vinci a donc décidé d'exposer une trentaine de fourgons accidentés à la barrière de péage de Virsac, un cimetière de camionnettes broyées, pare-brise pulvérisé, qui témoigne de la violence des chocs.
Évidemment, vous comprenez bien qu'à 130 km/h avec un VL ou 90 km/h avec un poids lourd, lorsqu'un fourgon est percuté, le choc est très violent.
Raphaël Martin est le directeur d'exploitation de Vinci Autoroute.
Ce qui est primordial, c'est finalement que quand vous êtes au volant, vous devez être attentif et pleinement concentré et en bon état de conduite.
84% des conducteurs admettent avoir parfois quitté la route des yeux plus de 2 secondes. 40% disent prendre la route alors même qu'ils sont fatigués.
Et c'est un reportage de Jade Pécheras d'ici Gironde. La pétition s'appelle « Non à la loi Duplomb ». Postée il y a 8 jours sur le site de l'Assemblée nationale, elle affole les compteurs. Déjà plus de 420 000 signatures. Il en faut 500 000 pour que la proposition soit débattue dans l'hémicycle. Le texte demande l'abrogation de cette loi votée début juillet. Présentée comme une réponse aux demandes des agriculteurs, elle prévoit entre autres de réautoriser 2 pesticides néonicotinoïdes. Pour Nadine Lauverja de Génération Future, ce succès reflète un vrai mouvement de fond.
En fait, cette pétition, elle est la traduction d'une colère qui n'a fait que monter contre cette proposition de loi et contre notamment cette réintroduction de néonicotinoïdes, ces insecticides tueurs d'abeilles, dont tout le monde dit qu'ils sont un problème pour la santé et l'environnement. D'ailleurs, pas que les écologistes, hein. Il y a eu de très nombreuses mobilisations par notamment des sociétés savantes, des médecins, des scientifiques qui ont en fait manifesté leurs craintes vis-à-vis de la réintroduction de ces néonicotinoïdes. Donc, Ça témoigne, je pense, en effet, de l'agacement généralisé de la population depuis des mois. Nous, on l'a vu, on y a un peu contribué avec d'autres organisations. Et cette mobilisation qui a pris cette ampleur, elle s'est traduite par cette pétition qui a une fusée. Là, je pense qu'on va atteindre les 500 000, d'ailleurs, assez prochainement.
Nadine Lauvergeat de l'association Génération Future, interrogée sur France Info, les 105 000, ce sera en effet sans doute d'ici ce soir. Opérer un patient à des milliers de kilomètres de distance, c'est ce qu'on appelle la téléchirurgie, la première opération du genre entre Strasbourg et New York, c'était il y a 24 ans, jour pour jour. Et c'est à Strasbourg que se tient aujourd'hui le Congrès mondial de chirurgie robotique. La ville est pionnière de la discipline grâce à l'IRCAD, l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Invité de ce journal, justement, en direct de Strasbourg, le professeur Jacques Maresco. Bonjour.
Bonjour.
Et c'est vous qui avez fondé l'IRCAD et c'est vous, Jacques Maresco, qui avez réalisé il y a 24 ans cette première mondiale. Alors votre patiente était à Strasbourg, vous étiez à New York. En quelques mots, vous pouvez nous rappeler cette première assez révolutionnaire pour l'époque ?
Bah, écoutez, c'était un challenge et c'était en fait un programme européen auquel on avait souscrit. Et le projet s'est appelé Master pour Minimal Access Surgery by Telecommunication and Robotics, c'est-à-dire imaginer comment il n'y avait plus de barrière géographique entre le chirurgien et son malade. Et donc on l'a fait, ça a été plus de 7 ans de travail puisque ça a commencé en 1994, donc vous imaginez, ça fait 30 ans. L'opération a lieu en 2001.
Opération Lindbergh, puisque c'était
Opération Lindbergh. Et alors, on avait utilisé, parce qu'il y avait un challenge de télécommunication, on l'avait fait avec France Télécom, qui avait un système exceptionnel, puisqu'on avait ce qu'on appelle un temps de latence, et il faut un temps de latence de moins de 200 millisecondes. Ce qu'on avait, on avait 150 millisecondes. Et ensuite, cette opération a été faite, ça a été vraiment, je dirais, un scoop, surtout dans les pays asiatiques et aux États-Unis, plus d'ailleurs qu'en Europe. Et ensuite, plus rien ne s'est passé, parce que les technologies de communication, pour avoir ce qu'on appelle du 150 millisecondes de délai.
Oui, c'est-à-dire que le chirurgien vient tout de suite la réaction avec le robot, bien sûr.
Voilà, et ça, c'était compliqué. Et là, maintenant, si vous voulez, on est 24 ans après, les Chinois ont fait une explosion de téléchirurgie depuis 2023, c'est-à-dire plus de 1000 opérations ont été réalisées. Et nous, on a ce congrès mondial de chirurgie à l'IRCAD. Depuis lundi, on a fait des interventions à partir de l'IRCAD en Chine, en Inde, au Kazakhstan, au Maroc, etc. Il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que vous êtes dans un simple bureau, vous avez une partie maître du robot et vous pouvez opérer en fait dans le monde entier. Et
professeur Maresco, à l'époque c'était une opération assez simple, une ablation de la vésicule biliaire. Aujourd'hui,
c'était
vous nous dites,
de la vésicule biliaire,
on peut tout faire aujourd'hui avec cette chirurgie à distance.
Alors les démonstrations qui ont été faites à partir de l'IRCAD ici, ça a été une chirurgie de l'obésité, ce qu'on appelle un gastric bypass, ça a été 2 cancers de la prostate, ça a été une chirurgie cardiaque qui est en train de se dérouler maintenant, chirurgie cardiaque d'ici en Inde, aussi à Indore, là où on a aussi un IRCAD, puisqu'on a maintenant 9 IRCAD dans le monde. Et donc, il y a plus aucune limite. C'est-à-dire que, quelle que soit l'opération, c'est de la robotique. Et à partir du moment où maintenant, si vous voulez, la robotique, quand on avait fait Lindbergh il y a 24 ans, il y avait très peu d'opérations qui se faisaient sous robot. Maintenant, la totalité des opérations peuvent se faire sous robot. Je disais toujours dans mes conférences avant, sauf la transplantation hépatique. Et vous avez un centre au Portugal, à Lisbonne, qui a déjà fait 50 transplantations hépatiques exclusivement par robot.
Mais professeur Maresco, l'intérêt au-delà de la prouesse technologique, c'est de réduire l'inégalité d'accès aux soins. En quelques mots, notamment la question des AVC, par exemple, il faut aller très vite.
Voilà, alors c'est pour ça qu'on a invité aussi à ce congrès mondial ce qu'on appelle Head of Innovation et Technology de l'OMS qui est venu ici avec une équipe. C'est la raison pour laquelle il y avait la FDA, il y avait des gens de la Maison Blanche. Si vous voulez, le problème est qu'on sait actuellement que vous avez plus de 4 milliards, un article dans Lancet il y a 2 ans, 4,7 milliards de la population n'a pas accès à des soins normaux et corrects. Et si vous venez, alors c'est très intéressant ce que vous dites, pour moi, la plus belle application de la téléchirurgie très prochainement, ça ne sera pas obligatoirement la chirurgie digestive qui est ma spécialité ou la chirurgie thoracique, ça sera le traitement de l'accident vasculaire cérébral. Et alors pourquoi ? Parce que je pense que vous savez que bien sûr que souvent, le plus souvent c'est un caillot, que le traitement idéal qu'il faut c'est enlever ce caillot
et
vous avez 2 heures. Et quand vous regardez les statistiques de la population mondiale, quel est le pourcentage de malades qui bénéficient de traitement dans le monde ? 2,8%. Le pays le plus développé pour ça, c'est les États-Unis. 100 millions de la population américaine n'a pas accès à ce traitement.
Merci professeur Maresco, on est obligé de s'arrêter là, c'était passionnant, en direct de Strasbourg pour ce congrès mondial qui continue jusqu'à demain. L'équipe de France féminine de football affronte ce soir en quart de finale de l'Euro sa meilleure ennemie, l'Allemagne, qui avait éliminé la France en demi-finale de l'Euro 2022. C'est à suivre à partir de 21h sur TF1. Et puis, vous avez peut-être vu les images impressionnantes d'une gigantesque scène de concert en feu. C'était mercredi en Belgique. Le festival de musique électro Tomorrowland a bien failli être annulé. Mais les organisateurs ont travaillé jour et nuit pour remettre le site en état et ouvrir le festival hier soir comme prévu. Fabien Cazot y était.
Charlotte, une habituée du festival, est venue en voisine avec des amis pour profiter des premiers concerts hier soir, non sans avoir une pensée pour les organisateurs, à qui elle dit sa gratitude.
Ils ont vraiment fait tout leur possible pour remettre à nous notre scène, ce qui exige énormément de boulot, d'heures, d'investissement, motivation. Donc ça, c'est vraiment, oui, c'est remarquable.
Certains festivaliers viennent de beaucoup plus loin. Michael, 30 ans, a fait le déplacement depuis la Finlande pour le festival Tomorrowland. Il a eu très peur de devoir tout annuler au dernier moment.
Ça fait longtemps que je rêve de venir ici avec tous ces gens, toute cette musique. C'est tellement bien ici. Bien sûr, c'est triste que la grande scène ait brûlé. Mais il y a tellement d'autres scènes et d'artistes à voir.
Michael attend en particulier David Guetta demain, alors que Barry, 47 ans, menuisier à Liège, est lui venu en famille sans même avoir regardé le programme.
On voulait découvrir quand même une fois comment se passait le festival. On pensait que ça allait être annulé et puis tout compte fait, ils ont bien bossé pour pouvoir ouvrir. Quoi. Non, c'est bien, c'est génial. Le temps est là, le monde est là et de la bonne musique et c'est parti.
400 000 festivaliers sont attendus à Tomorrowland ce week-end ainsi que le week-end prochain.
Et ça s'appelle donc Tomorrowland, c'est à Boom en Belgique. L'Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire placés en vigilance orange aux orages. Ils rejoignent l'Allier, l'Ain, l'Isère, la Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. En tout, c'est donc 9 départements concernés. Un œil sur le temps.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur Vérissure.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Corinne.
Cet après-midi, l'instabilité gagne du terrain.
Oui, les orages s'étendent progressivement des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est et du centre du pays vers la Bourgogne-Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, la région PACA et même la Corse. Les plus virulents sont attendus entre l'Auvergne et l'ouest de la région Rhône-Alpes, accompagnés de grêles, de fortes pluies et de rafales de vent pouvant atteindre 70 à 90 km par heure. Plus à l'ouest, le ciel reste changeant entre timides éclaircies et nuages souvent accompagnés d'averses, tandis que la Bretagne, elle, voit arriver des pluies plus continue qui glisse ensuite ce soir vers la basse Normandie et les pays de la Loire. À l'est, l'activité orageuse commence à perdre de sa vigueur en fin de journée.
Et la tendance est à la baisse côté température.
Oui, Météo France attend entre 21 et 26 degrés du nord-ouest à l'Atlantique, 22 à Quimper, 24 à Biarritz, de 24 à 29 partout ailleurs, 25 à Lyon, 26 à Bordeaux, 27 dans la capitale et encore jusqu'à 33 degrés du côté des Alpes et du littoral méditerranéen.
Merci Magali Rochereau.